Il y avait rendez-vous avec lui. D'accord, merci. Ça va.
Bonjour.
Vous lisez comme ça.
J'ai un premier livre, publié en 2007. Le côté créatif, c'est mon goût des histoires impossibles vit depuis longtemps. Il faut juste séparer le réel de l'imaginaire.
Oui. Je vous en prie. Depuis la semaine dernière.
Ça va s'étirer. La rentrée se met en place. Je recherche très activement du travail puisque, comme je vous ai dit, un travail que j'avais trouvé, je ne me sentais pas de faire le travail d'un architecte parce que je ne suis pas architecte et je n'ai jamais imaginé l'être. Mais c'était une fonction un peu où selon la chef d'entreprise, il suffit de connaître le bâtiment pour faire le job. Parce qu'en fait, on appelle ça OPC, c'est des planificateurs, en fait, c'est eux qui ordonnancent les chantiers du début à la fin, sans compétences techniques particulières, sans agrément d'architecte ou quoi que ce soit, donc j'avais dit oui.
Ça me fait penser tout de même à votre histoire, que est-ce qu'à votre avis, ça pourrait avoir un lien qu'on puisse imaginer de vous que vous demandez une place qui ne serait pas la vôtre.
Bien sûr que c'est certainement la même chose, mais justement, quand je sais que c'est pas ma place, je renonce, je ne continue pas. Par exemple, justement, c'est vous avez raison de relever ça dès le départ de cette consultation, parce qu'on est au cœur de ma vie.
Oui.
On est au cœur à la fois de ma perception du réel, qu'elle soit exacte ou inexacte. Si elle est inexacte, je ne m'en rends pas compte. Mais volontairement, vraiment, pas compte. Je dis volontairement parce que je ne suis pas dans la volonté de piéger l'autre, ni de me piéger moi-même. Donc, par exemple, lorsque sur Pôle emploi, j'ai vu l'annonce il y a un mois et demi de Texplan, qui est un gros bureau d'études dans l'Essonne, pour laquelle mon épouse est devenue cadre administrative sur ma recommandation, ce qui est bien. Du coup, j'ai pu aider mon épouse, puisqu'elle écrit des livres et elle a son succès. Mais avec le Covid et tout ça, les maisons d'édition qui l'éditaient ont beaucoup souffert. Donc il fallait faire rentrer de l'argent sur des revenus fixes. Et c'est normal, moi aussi de mon côté, parce qu'il n'y a pas que mon épouse qui doit travailler, moi aussi. Ça, c'est convenu pour moi. C'est-à-dire que ce n'est pas mon épouse qui travaille, moi qui fais rien. Et donc, en postulant sur Pôle emploi, j'ai vu donc des Texplan au PC. Je connaissais déjà la patronne de cette boîte. Et la définition donc de la mission semblait me correspondre. Et quand j'ai commencé une première semaine là-bas, ça allait. Mais quand j'ai su que c'était un architecte que je devais remplacer sur le chantier pour faire les mêmes fonctions, c'est non pas que je ne crois pas avoir imaginé que j'étais architecte, parce que ce n'était pas le cas, comme je n'ai pas imaginé il y a 15 ans que j'étais avocat. Je devais m'associer avec mon avocat pour créer une affaire qui semblait les plus légales. Elle n'a jamais commencé cette affaire. Ça ne m'a pas empêché de prendre 3 mois avec sursis, alors que je devais être consultant et mon ami de l'époque était donc mon avocat aussi, Jacques Barbe, jusqu'à qui il ait tellement peur de son bâtonnier qu'il oublie de témoigner à ma faveur. Et tout ça, j'ai ces filles de l'époque qui l'attestent, c'est pas moi qui refais l'histoire. Et donc, par rapport à ce job, j'ai dit à la patronne le plus courtoisement du monde, surtout que ma femme, en plus, avait déjà commencé à travailler. Je voulais pas qu'elle perde son travail parce que moi, je pouvais renoncer au mien. Donc j'ai dit, voilà, je veux pas avoir le même problème qu'il y a 15 ans où on va m'expliquer que je joue l'architecte, alors je joue pas l'architecte. Et de toute façon, c'est pas un travail d'architecte, il suffisait juste de voir si sur le chantier les travaux avançaient et les acter dans les rapports toutes les semaines, c'était tout. Mais chaque chose est crème froide, et justement, j'ai dit non. Donc j'ai préféré renoncer à un job super bien payé, à quasiment 3000 net par mois, de peur de me retrouver dans une situation d'un job que je sais faire. Pourquoi je sais que je sais le faire? Parce que j'ai siégé à la Fédération française du bâtiment. J'ai dirigé une boîte dans le bâtiment il y a 15 ans avec un certain succès qui n'a pas duré longtemps. Mais c'est juste que, voilà, malgré que je savais faire ce job, et que c'est des chantiers publics, Et par exemple, le chantier sur lequel je devais intervenir, c'est un centre culturel à Pays-Souilly, dans le 77, très jolie petite commune de Fleurie, mais qui a beaucoup de problèmes. Il y a eu un incendie, etc., etc. Tout le monde se colle des procès, des assignations d'huissiers, pour malfaçon, pour ceci, pour cela. Et d'ailleurs, pour preuve que je suis peut-être pas si à côté de la plaque que ça, c'est que quelqu'un m'a remplacé pour ce boulot, et ce jeune homme qui m'a remplacé, qui s'appelle Jean-Baptiste, a les problèmes que j'avais pensé que j'allais avoir. Puisque mon épouse, donc, sans me trop pas m'en dire, puisque maintenant je ne suis plus parti de la boîte, il y a des choses que je n'ai pas à savoir, dans le secret de l'activité de ces sociétés, ma femme me dit, bah, écoute, Jean-Baptiste est très inquiet, parce que lui, c'est un ancien plombier, et il me dit que justement, tous les corps de métier, et la mairie qui est le client final, lui tombe dessus en permanence, exige des choses de lui, qu'il produise des papiers de certification, etc., qu'il ne peut pas faire. Donc voilà, on en est là. C'est-à-dire que c'est ce que je vous disais, c'est comme ça, moi, que je perçois les trois pages de Libération, que vous avez dû pu lire avec beaucoup d'attention, je suppose. Si je suis à côté de la plaque, soit. Soit. Je suis là pour ça. Je suis au centre Montaigne pour guérir, ou ne jamais guérir, mais contenir cet esprit créatif qui est là. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai préparé ce livre aujourd'hui. Pas pour faire le malin, mais pour dire que ça fait 15 ans que j'écris. Alors, je ne suis pas Marc Lévy, moi, hein, ni Jessica Rawlings. Mon épouse, elle, c'est un succès plus important et a été édité par des vrais éditeurs. Alors que moi, c'est un compte d'auteur. Bon, j'ai vendu 300 exemplaires de celui-là, à peu près, ce qui est correct, mais ce n'est pas ça qui paye les factures. Bon. Moi, je suis un demi-auteur, mais mon épouse est une vraie auteure. C'est qu'en effet, voilà, cet esprit créatif, est-ce qu'il a débordé au point de m'imaginer le fils d'un homme qui n'est pas mon père ? Peut-être. Ce qui est certain, et j'y repense tout le temps, je sais très bien comment tout ça a commencé, il y a 5-6 ans.
Enlevez votre masque, monsieur.
Il n'y avait pas, ça va, j'ai oublié le mien, dans ma précipitation de craindre d'être en retard, j'ai oublié le mien à la maison, j'en ai toujours un. Et celui-là, c'est vrai qu'il gratouille un peu, je me suis rasé juste avant. Donc merci pour votre... Vous savez, mais maintenant, on doit avoir le masque quand je viens. Et donc, voilà, je suis beaucoup dans l'introspection, Parce que c'est ma nature, j'aime réfléchir. Mais j'aime réfléchir, peut-être que je réfléchis mal, mais je réfléchis à la fois à l'instant présent et à la fois sur ce que j'ai pu faire. Et bien sûr que cette histoire paraît insensée. Mais elle n'est pas née de mon esprit. Elle est née qu'il y a, en 2012, par là. Je me rapproche de certains Roumains de la diaspora française, qui sont dans le bâtiment d'ailleurs aussi, Jean Popescu, qui vivait à l'époque à Clermont-Ferrand, qui avait une boîte de seconde œuvre en bâtiment. Je me rapproche un peu de lui parce que cette Roumanie qui est très loin de moi depuis que j'ai quitté l'orphelinat de Bucarest, je l'ai laissé très loin de moi, volontairement, parce que j'aimais pas ce pays.
Vous saviez petit déjà,
oui, oui.
Originaire de Roumanie.
Oui, mes parents adoptifs me l'avaient toujours dit. Puis je m'en souvenais, je suis parti là-bas à 4 ans, donc on a des souvenirs extrêmement précis. Donc s'ils m'avaient dit que j'étais leur enfant, j'aurais eu un problème de rétablir, de lier les souvenirs que j'avais avec la version qu'ils me donnaient.
Vous parliez en roumain déjà ?
À l'âge de 4 ans, bien sûr, oui, oui. J'ai parlé roumain, j'ai parlé le saxon de Transylvanie, qui est le dialecte allemand, qui se parlait beaucoup là où j'étais.
Vous le parlez encore aujourd'hui ?
Non, je n'ai pas couramment en tout cas. Que ce soit le roumain ou le saxon de Transylvanie, j'ai recherché les bases, entre autres avec Jean Popescu, mais je ne le parle plus du tout couramment. L'enfant qui s'est sociabilisé avec ce qu'il avait autour de lui dans ses 3-4 ans a oublié beaucoup de choses, volontairement ou pas. Et voilà, mon roumain, il est bricolé, il fonctionne. D'ailleurs, en prison, je me suis retrouvé avec des roumains et ils m'ont appris les mots de la grand-mère. Et voilà. Est-ce que j'ai honte de la Roumanie ? Oui. Parce que toute mon enfance, mon père adoptif m'a expliqué que c'était un pays de merde. C'était ses mots, hein. C'était pas les miens. Et que j'avais beaucoup de chance d'avoir été adopté par lui. Et souvent, il disait ça en public, avec sa maîtresse du moment, ou les membres de sa famille, et ça me salissait énormément. Je me sentais humilié, je me sentais ce que j'étais, humilié en public. Et donc, j'ai appris à être indifférent à ce pays et à ne pas l'aimer.
Oui.
Et donc, lorsqu'il y a quelques années, au fil des rencontres que je crois réelles, puisque depuis il m'a fallu prouver en justice ou à la presse que je connaissais réellement telle et telle personnalité roumaine, d'ailleurs, ce qui m'a étonné, petite parenthèse, c'est que j'ai prouvé, par exemple, que je connaissais un Razvan Mihaiscu, qui n'est peut-être pas le Razvan Mihaiscu que la M6 à l'époque avait présenté, mais je connais un Razvan Mihaiscu qui m'avait écrit divers mails en me proposant d'ouvrir une galerie d'art à Paris pour lui, etc. Donc j'ai des écrits que j'ai fournis à Libération, et elle s'est essuyée l'arrière-train avec, j'ai l'impression, puisqu'elle n'a fait comme si ça n'existait pas. Donc moi, je veux bien ne pas comprendre, mal comprendre certaines choses, les inventer par mes livres, oui, ce sont des histoires inventées, mais ce que je vis au quotidien, non. Par exemple, je vous l'ai dit la dernière fois, et je vous le redis aujourd'hui, parce que c'est ce que je vis, à l'instant où je vous parle, mon épouse a été obligée, parce que ses fils ont reçu des mails de leur père, donc du premier mari de ma femme, elle a été obligée de témoigner en ma faveur en justice et porte plainte contre son ex-mari, qui invente tout et n'importe quoi sur moi, au point d'être allé chercher des témoins de moi d'Arcy qui me feraient dire des choses que je n'ai jamais dites ou faire des choses que je n'ai jamais faites. Concrètement, par exemple, je suis en communauté de biens, mon épouse, on a un compte commun et nos dépenses sont très transparentes pour elle comme pour moi, mais son ex-mari a inventé, pour les raisons qui lui appartiennent, hein, que j'avais une maîtresse roumaine cachée, que je voulais tuer ma femme, lui voler son argent et retourner en Roumanie. Je n'ai pas de maîtresse. Ma femme n'est pas assez riche pour que je puisse la voler. Et puis en plus, juridiquement, je ne peux pas la voler et elle ne peut pas me voler puisqu'on est en communauté de biens sur le compte commun avec des revenus quand même qui sont plus ou moins réguliers. Et puis j'adore ma femme. Mais ce qu'on oublie, et c'est ce que mon épouse a été obligée de témoigner en BTA de Rambouillet, c'est qu'en fait, Olivier Boulay, cet homme qui m'a, avec les trois OPJ, fait condamner au mois d'octobre l'année dernière, ce qui me fait être là aujourd'hui, c'est que c'est un homme extrêmement violent, extrêmement menteur, et il a fallu que mon épouse, qui a été mariée 24 ans avec lui, le confirme à la justice, parce que la justice, l'année dernière, a juste oublié d'appeler à témoin mon épouse pour savoir quel mari j'étais, quel homme j'étais au quotidien. Et finalement, il y a des preuves concrètes hein, qui remontent avec des témoignages, par exemple des fils de mon épouse et donc de cet homme, comme quoi cet homme n'est pas du tout l'homme merveilleux et inquiet pour son ex-femme ou s'épouse qu'il est et qu'il a vendu à la presse et à la justice. Non. Et là, on est dans du réel. Hein. Par exemple, ce matin, moi qui ne me suis jamais fait passer pour un avocat de ma vie, désolé, je n'arriverai pas à me souvenir que je me suis fait passer pour un avocat quand bien même j'ai pris 3 mois avec sursis pour ça. Mon esprit, non. C'est ma mémoire.
C'est ça qui vous a fait condamner ?
Non. Ce qui m'a fait condamner, c'est de l'argent que j'aurais déplacé sur des sociétés sans l'accord
de, votre...
voilà, de mes grands-parents adoptifs. Le petit problème, c'est que c'était sur un compte jeu avec Olivier Caracci, que cet argent a profité aux entreprises Moragues Caracci.
C'est le fait que vous seriez fait passer pour avocat.
Parce que ça, le sursis s'est transformé en ferme. Petit détail juridique que vous connaissez peut-être ou pas, c'est que quand on a un sursis à un moment donné, s'il y a une deuxième condamnation qui vient, qui est elle aussi du sursis, les deux se transforment en ferme.
Oui.
Et donc à l'époque, le bâtonnier de l'époque était l'avocat de mon père adoptif, qui était en guerre contre moi, on était en guerre de loge aussi, parce qu'il faut savoir ce passé maçonnique qui est le mien et du bien réel, puisque les patentes, fut un temps, ont été produites par les obédiences qui voulaient produire ce genre de documents. Donc j'étais en guerre avec Jacques Martin à l'époque, puisque lui avait écrit son obédience, et moi je criais partout, je lui ai fait une pub qui m'est revenue en pleine gueule, où pour moi c'était un pauvre con, il m'a rendu la monnaie de ma pièce, en me faisant condamner pour des choses que j'avais jamais faites. Donc,
qu'est-ce que vous criez partout ?
Il y avait une guerre de loge à l'époque, où la Grande Loge Nationale Française était en train d'imploser dans des combats en 35 mètres avec Jean-Charles Foyner et M. Stefanini, je dis monsieur parce que je ne me souviens pas de son prénom, et donc à l'époque, ça avait, sur Montpellier, les loges se tapaient sur la gueule, et donc je venais de rentrer en maçonnerie, et j'ai cru que j'avais le droit de donner mon avis, j'aurais pas dû le donner. Donc, je me suis retrouvé avec 3 mois avec sursis pour une activité d'avocat que je n'ai jamais eue. Mais ces 3 mois avec sursis se sont transformés en 3 mois fermes, plus 3 mois avec sursis de l'histoire de l'argent déplacé de compte à compte, qui se sont aussi transformés en 3 mois fermes. Ça a fait 6 mois fermes et 6 mois avec sursis. J'ai fait 4 mois et 4 jours. Voilà. Donc, c'est mon passé, le grand volume, n'est-ce pas ? Et le problème de tout ça, c'est que il est possible que je sois à côté de la plaque depuis toujours. Hein. Peut-être que je suis né complètement fêlé, ou que l'orphelinat m'a brisé, ou que la mort de mon fils en 2007 m'a l'avortement, c'est une mort, hein, puisque à 7 mois et quelques de grossesse, on est un enfant. Quand bien même certains voudraient faire croire que tant qu'on n'est pas né, on n'existe pas, moi je ne suis pas d'accord. Donc tout ça, tous ces drames majeurs qui ont échelonné ma vie, qui continuent à la rythmer, ma vie, c'est tous ces drames-là, et de nouveaux drames certainement à venir, parce que je suis terrifié par le futur. Non pas de bêtises que j'aurais faites et de quelles je devrais répondre, mais j'ai une vie où je dois répondre de beaucoup de défis en permanence.
Ouais.
Et donc, après, ce sont peut-être des défis que je m'invente, ou pas. Il est étonnant dans l'article de presse de voir à quel point Stéphanie Maurice insulte l'ordre de Malte. L'ordre de Malte, en effet, a eu mal à partir avec les Anglais et avec Napoléon. C'est historique, j'adore l'histoire. Et c'est pour ça que j'écris des histoires. Et en effet, l'ordre de Malte, à un moment donné, n'a plus existé en tant qu'État souverain. Ils se sont réfugiés chez Pierre Ier de Russie, dont cet ordre de Malte qui m'a produit des documents. Ce n'est pas les faux que j'ai produits moi. Ce sont des documents qui viennent de chez eux. Quel que soit cet organisme, aujourd'hui, ça vient de chez eux. Donc ils m'ont relié, familialement parlant, à ce dernier officiel grand maître de l'ordre de Malte, tel que historiquement on le connaît. Moi, j'ai rien demandé. Hein. D'ailleurs, j'ai dû le prouver, en gendarmerie de Rambouillet, que j'avais reçu des mails, leurs propositions, les degrés et qualités de tout le monde. Ces gens-là physiquement existent, les fonctions qu'ils prétendent avoir, il semblerait qu'ils les aient. Et voilà. Donc je suis étonné qu'une Stéphanie Maurice, dont le fait d'arme est d'avoir fait un reportage d'un an en immersion dans le tuning, vous savez, les trucs de voiture, là, les décorations de voiture, d'un coup se soit prise de passion. Je ne sais pas qui lui a commandé ce portrait, mais ce n'est pas moi qui suis allé lui demander quoi que ce soit. Et donc cette femme qui, a priori, ne connaît pas grand-chose à l'histoire, et je ne suis pas insultant en disant ça, c'est que moi, je m'en fous que l'ordre de Malte actuel soit ou pas l'ordre de Malte d'avant. J'en ai rien à cirer. La seule chose qui m'importe, et c'est ce qui m'a toujours importé dans mes démarches familiales, c'est de dire, moi, je crois quelque chose, mais je ne suis pas le seul à le croire. Et je ne paye pas des gens pour le croire, et je ne leur promets pas quelque chose pour le croire. Ça a été le cas de l'Église orthodoxe, de l'Église de Pologne, de l'Ordre de Malte, de la Maison royale de France, quelle qu'elle soit aujourd'hui. Que c'est parce qu'il y a les orléanistes, les bonapartistes, les Louis XX, et ce fameux Nandorf qui finalement n'était peut-être pas si inventeur historique que ça. L'ADN, quant à lui, a parlé. L'actuelle descendance de ce Louis XVII qui en fait n'est jamais mort, des tests ADN il y a une petite dizaine d'années, ont prouvé qu'en fait, ceux qui sont indiqués de lui ne mentaient pas. Ça n'a pas empêché les orléanistes, etc., de continuer à ramener leur gueule. Hein. Je dis ça trivialement, pourquoi ? Parce qu'on est de toute façon dans un combat de chien. On n'est pas dans un combat de gentleman, où moi j'ai grandi chez le voyou. Consciemment, je n'ai pas voulu en être un. Donc quand je suis obligé, tous les jours, même quand je cherche un boulot, d'expliquer pourquoi j'ai des articles de presse et aussi terribles, et ces condamnations qui sont les miennes, qui font pas de moi un violeur, un braqueur de banque ou un vendeur, mais juste un pauvre con qui peut-être à un moment donné a utilisé de l'argent qui n'était pas le sien. Oui, mais pour les gens qui sont censés avoir été victimes. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ça entre Olivia Carracci et moi ? C'est parce qu'Olivia Carracci, on m'a toujours dit dans mon enfance, était terrifiée par François Carracci, qui était un homme extrêmement violent et mystérieux. Le petit artisan que vend Stéphanie Maurice, ça m'amuse. Parce que moi, je me souviens, ça m'amusait vraiment ces mots. Parce que je me souviens de fin des années 90, tout début des années 2000, où François Carracci avait un contrôle fiscal de l'inspection générale des impôts du Trésor public de Montpellier et de Montbiot, là où il y a l'aéroport de Montpellier. Il y a le siège, là, ici, Carracci, où je réclame d'ailleurs toujours qu'on me verse des dividendes depuis des années. Et cet homme a eu un contrôle fiscal compliqué parce qu'il avait acheté un bateau d'une vingtaine de mètres pour 3 millions d'euros, cash. D'un coup, apparaissait un yacht, des chantiers navals Sopranzi, à Grenoble. Je me souviens très bien du nom, parce que ma mémoire me fait défaut pour certaines choses, mais pas pour d'autres. Et donc, ce chantier naval Sopranzi, qui était en faillite, mais mon père adoptif, qui est un spécialiste du rachat de faillite, il adore... c'est son père, lui, et mon grand-père paternel adoptif, qui lui avait appris ça, où on paye toujours moins cher quelque chose de neuf qui est passé par la faillite que quelque chose d'acheté directement. C'est une façon de faire. C'est juste qu'il faut avoir le cash. Donc, il se retrouve, cet homme, qui est censé être un petit artisan avec un ou deux employés, avec devoir répondre de ce contrôle fiscal de 3 millions d'euros d'un bateau qui porte son nom, d'argent qui a circulé sur ses comptes via un compte sicilien de la Monte dei Paci di Siena, qui est donc une banque italienne, qui existe réellement. Et on est dans ça. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on m'explique mon père adoptif, ces personnes. Il n'y a pas de problème. Ça ne me dérange pas. Hein. Ça ne me dérange pas. Si on me prouve par A plus Z que je suis le fils de telle personne en Roumanie, même si cette personne n'est personne socialement, je suis sûr que ça m'ira. Parce que je n'ai pas de prétention. Je n'ai pas un orgueil surdimensionné à faire vivre. Souvent, les personnes qui me critiquent disent « je veux exister, je veux être reconnu ». Oui, je veux être connu et reconnu. Je veux qu'on me reconnaisse pour ce que je suis ou ce que je ne suis pas. Mais moi, je veux bien qu'on m'explique à Michel Pompidou, je ne veux pas mon père. Soit. Quelle preuve établisse cette vérité-là. Qui sont mes parents? Moi, Libération avait tant d'argent à dépenser, de consacrer 3 pages avec ce que ça coûte pour faire une enquête bidon sur un mec bidon comme moi. Elle aurait pu employer un autre ton. Elle aurait pu présenter les choses autrement. C'est la liberté de la presse, mais pas la liberté d'agresser. J'ai pu prouver, gendarmerie témoigne au passage, que par exemple, le journaliste pour M6, Maurice Nera, m'avait inventé des témoins. On a un directeur de l'orphelinat qui, en fait, n'a jamais été contacté pour M6, une infirmière de l'orphelinat qui ne devait jamais témoigner pour M6, etc. Et j'ai des textos et des mails de ce journaliste, je dis journaliste entre guillemets parce que pour moi, ces gens-là sont des brouillons de l'information. C'est pas que cet homme a fait un reportage qui ne me convenait pas, c'est que cet homme n'a pas répondu à la question de qui j'étais. Puisque moi, je veux juste savoir d'où je viens, pour savoir où je dois aller.
Oui.
C'est ma trajectoire, c'est mon obsession.
Oui.
J'ai des obsessions. J'ai des peurs, j'ai des incapacités à faire certaines choses, à en comprendre d'autres. Et ça me va. Je ne suis pas Superman. Je ne suis pas ça. Quand, par exemple, mon co-détenu, l'année dernière, Adel Kassel, m'explique qu'il a besoin d'argent, je lui dis oui, mais qu'est-ce que tu veux, je ne vais pas t'en donner. Hein. Mais il avait lu dans la presse des choses sur moi, dans l'Express, par exemple. L'Express avait enquêté, c'est fou. L'Express enquête en 2005. Enquête. Le journaliste vient chez moi, il va chez mon père adoptif, il voit le yacht. Jacques Molina, le journaliste, dont on trouve l'article sur Google, le père, le fils et les frères. Il est question de mafia, de franc-maçonnerie et de fortune du bâtiment dans cet article, dans ce court article. L'Express explique que François Carracci est très riche, que je me suis fait voler et que je suis en danger, à tel point que j'ai fait mon testament. Et 15 ans plus tard, on réécrit l'histoire. Libération, sous la plume de Stéphanie Romoris, me présente un petit artisan, d'ailleurs qu'on ne voit pas. Il n'apparaît pas dans cet article, il n'y a pas qui, mais il est où? Dans le cas en Sicile, pourquoi faire? Moi, je ne sais pas. Ce co-détenu, Adel Kassem, me demande de l'argent, je lui dis non. Je lui dis, par contre, trouve un téléphone et prends-moi une photo. Et tu verras une photo de moi en prison. Un journal pourrait être intéressé de te les acheter parce que je vais de nouveau faire la une des journaux. Et j'ai dit ça l'année dernière. Je dois être voyant puisque Libération m'a consacré 3 pages dont une accroche en première de couverture. Ce que j'ai expliqué par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui semblent invraisemblables dans ce que je dis, mais que le temps confirme. Alors je suis peut-être dingue, mais le temps est mon complice alors. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Et je ne le dis pas pour faire le malin. C'est parce que, de toute façon, ceux qui m'expliquent que je suis un menteur, ils n'ont pas de preuves. Ils utilisent mes condamnations du passé pour expliquer que, comme j'ai tué un voyou, je ne peux pas dire la vérité. Mais pour moi, c'est Stéphanie Maurice, c'est la voyou.
ne pas être allé chercher mes parents naturels, Libération les moyens pour ça. Si elle voulait juste écrire 3 pages méchantes, elle se le faisait sur un blog, elle se faisait plaisir. Pourquoi prendre un témoin un journal comme Libération, qui est un journal respectable? Qui lui a demandé de faire ça? Parce que cette femme, je ne la connaissais pas. D'où elle sort? De quelle fausse sceptique on l'a sortie? Cette grande spécialiste du tuning. Puisqu'on parle de maquillage, puisque le tuning, c'est du maquillage de voiture, hein, c'est faire d'une voiture ce qu'elle n'est pas. Puisque le tuning, donc vous prenez une Deutsche et elle a l'air d'être une Ferrari à la fin. Mais c'est justement, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que moi, je suis un pauvre con qui se prend pour un roi, ou est-ce que je suis un fils de roi qu'on prend pour un pauvre con? Parce que personne n'a la réponse à cette question. D'ailleurs, elle fait la maline en clôturant l'article, en disant, en me citant, les trois derniers mots, c'est qui suis-je? Ben voilà, on y est.
Tout à fait.
Que ça soit dans mes faits de tous les jours, que ça soit dans ma tête, ou que ça soit familialement parlant. Moi, j'ai pas de problème avec le fait que les filles du roi ne soient pas mes sœurs. Mais répondons à cette question, réellement.
Oui.
Moi, c'est tout ce que je demande. Hein. Après, est-ce que j'ai sorti une histoire invraisemblable pour qu'on s'intéresse à moi? C'est pas moi qui ai sorti l'histoire invraisemblable du roi qui avait couché en dehors de ce. Qui n'avait pas couché qu'avec son épouse.
C'est une banalité tout à fait confondante.
C'est d'une
banalité.
C'est ce que j'allais vous dire. C'est ça qui est terrible. Et d'ailleurs, c'est ce que je réponds à cette femme. Elle se moque de moi de la manière dont elle présente les choses. Quand je lui dis, vous êtes des services de renseignement roumain, vous savez comment le roi fonctionnait à l'époque? Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Le roi d'Espagne, en ce moment, il est parti à Abu Dhabi, dans une histoire invraisemblable et pourtant vraie, et d'une grande banalité, où il a fait des gosses à Sophie d'Espagne, qui est donc une cousine germaine de Michel Ier de Roumanie. Et à côté de ça, finalement, il a toujours eu un amour caché, et la monarchie espagnole est vacillante en ce moment. Mais oui, c'est confondant. Il n'y a pas d'inceste. Ici, au centre Montaigne, vous n'avez personne qui le fait sous la pluie d'un inceste ou des gens qui ont commis un inceste. Certainement possible. Moi, je ne suis pas pour l'inceste. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, qui suis croyant, chrétien, c'est un démon qui est très fort, le démon de l'inceste. Ce démon qui fait croire à des parents qu'ils ont le droit ou le pouvoir d'abuser de leurs enfants. C'est une chose épouvantable. Et on est dans ça. C'est-à-dire que... D'ailleurs, c'est parce que mon obligation de soins, officiellement, c'est parce que j'ai trop demandé à des OPJ de faire leur travail. Mais officieusement, entre guillemets, ou le deuxième aspect de cette obligation de soins, qui ne m'a pas été présenté dans le jugement, mais qui est là, c'est ce que Jean-François Chiaracci... C'est un fou qui croit avoir raison, ou c'est un mec qui a raison qu'on croit qu'il est fou. Et moi, je ne sais toujours pas. Moi, ce que je sais au quotidien, ma témoin privilégiée, c'est mon épouse. Mon épouse, je ne lui promets rien. Je ne la vole pas, je ne la viole pas, je la tape pas. J'avais aucun besoin de le faire. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai besoin d'expliquer le mari que je suis. Et elle, quand on lui demande, la justice lui demande que la justice... La bêta de Rambouillet la convoque pour lui dire alors au Jean-François Chiaracci qu'il est au quotidien, ben elle dit ce qui est pris entre nous, c'est que ça se passe très bien. Elle est auteur. Ma femme a une imagination qu'elle maîtrise parfaitement, elle a écrit une cinquantaine de livres, elle a eu énormément d'articles de presse. C'est une vraie auteur, reconnue en tant qu'auteur. Ben moi, je ne suis pas jaloux de son succès. Au contraire, là, elle a un de ses livres qui devient film. Le producteur délégué a déjà commencé à lui donner de l'argent, à nous donner de l'argent du coup, puisqu'on est en communauté de biens avec compte commun, donc c'est bien le couple Chiaracci qui touche cet argent. Je suis heureux de ça, je suis heureux pour elle, je suis heureux pour lui. Mais je ne me dis pas dans ma tête ce que se dit la tête d'un fou comme son ex-mari, parce que je pèse mes mots, parce que il faut, ses fils, Paul-Élie et Loïc qui vivent avec nous. Bon, maintenant, un parc est à l'armée verte, ça y est, il a signé pour 5 ans, et l'autre est en train de finir ses examens pour y aller aussi à Rochon en Aquitaine. Eh bien, bon, là, récemment, on témoignait par écrit contre leur père en disant, mais Olivier Chiaracci est mort en ce lapsus. Olivier Boulay, c'est pas le héros qui fait croire. Nous, on a souffert avec ce père qui menteur et violent. Pourtant, quand on écoute cet homme, c'est Saint Olivier. Peut-être pas. Moi, je ne suis pas Saint Jean-François.
Vous vous êtes arrêté sur votre lapsus. Olivier Carinci.
Oui, Olivier Carinci.
Qu'est-ce que ça deviendra ?
Qu'il est amoureux de moi. Il faut savoir qu'Olivier Boulet est un homosexuel qui ne se reconnaît pas son homosexualité, parce qu'il le voit changé, parce que moi je ne le vois pas. Alors que je suis pasteur, je dis pasteur entre guillemets, puisque l'église à laquelle j'appartiens est reconnue par certains et pas reconnue par d'autres. Donc je suis un pasteur de pacotille et ça me va bien, puisque de toute façon je fais chez personne, je ne demande pas d'argent, je ne joue pas au bourreau. Je suis pasteur dans mon coin qui n'a mère de personne. Donc, dans le passé de couple de 24 ans que Bénédicte a eu avec Olivier, il s'avère qu'en effet, il a eu des amants. Ce qui fait que mon épouse a dit ben, je vais me rendre si j'y suis. Ménage à trois avec l'amant du moment, ce n'était pas son truc à ma femme. Voilà. C'est pour ça. Peut-être que lui, dans cette haine, dans cette hargne, a voulu s'encanailler avec les prisons de Bois d'Arcy. Il y a des textos. Il faut savoir une chose, c'est que Adèle Cassem, l'année dernière, vers le 18 ou 20 octobre de l'année dernière, une semaine avant que je sorte, a reçu des textos sur son portable de prison, un portable interdit. Des textos de mon avocat de l'époque, Tariq Pouméten, qui proposait, car Tariq Pouméten proposait à Adèle Cassem de témoigner contre moi en disant que j'ai oublié de tuer ma femme et voler son argent par échange de la devise. Petit problème, c'est que les falettes, donc les enquêtes judiciaires, ont fait remonter ça. Et dans ces échanges de textos, bien réels, Tariq Pouméten propose à Adèle Cassem d'appeler Olivier Boulet. Il lui donne son portable, 0680, etc., pour qu'il se mette là. Pour faire des faux témoignages contre moi. Et ça, ça a été acté dans les PV que le gendarme a envoyé. Une enquête, d'ailleurs, a été ouverte. Une enquête préliminaire a confirmé des premiers faits d'abus de confiance sur de mon avocat, Tariq Pouméten, sur ma personne. Et ça, les choses vivent là. Je ne me suis pas inventé cette histoire. Ce sont les fadettes, la discussion de portables, texto et appels entre Tariq Pouméten, Olivier Boulet et Adèle Cassem qui ont révélé cette chose insensée. Donc moi, quand je dis des choses insensées, il faut savoir qu'il y a des choses insensées qui peuvent avoir lieu. Voilà. Peut-être que je ne comprends pas tout, je vous le dis, c'est sûr que je ne comprends pas tout, et parfois je m'en amuse parce que moi, je peux tout comprendre. J'arrive sur mes 40 ans. J'ai fait 4 ans d'orphelinat dans un pays de merde, dans un orphelinat de merde. Je suis adopté par une mère adoptive qui ne voulait pas de moi, un père adoptif stérile, complètement fou et mafieux. Je meurs, parce qu'il faut savoir que je suis mort d'un méningite.
Je te dis.
Mais je suis mort, moi. Dans mon dossier médical, vous saurez réellement qu'à l'âge de 7 ans, j'ai eu une méningite à pneumocoque et je suis mort plus d'un minute. Et aux urgences de Lourdes, ça ne s'invente pas, puisque j'étais en vacances dans les Pyrénées, les Hautes-Pyrénées avec Olivier Carinci, mais je suis mort. Et ils m'ont fait revenir à la vie. Donc, c'est reparti pour un tour. Jean-François Carinci, à l'âge de 7 ans, revient. Saint-Jean-François, priez pour nous, revient sur Terre à faire chier les terriens. Et je me retrouve donc à me préparer à être père en 2007, et puis ça ne se fait pas, pour les raisons que je vous ai déjà largement présentées. J'apprends que mon père naturel n'est pas l'homme merveilleux que les livres d'histoire voudraient faire croire qu'il est. D'ailleurs, il y a une chose qui est amusante, c'est qu'il y a la presse roumaine qui écrit aussi sur moi. Je ne suis pas juste dans mon petit coin perdu, en forêt de Rambouillet, à faire 4 à 5 km à pied tous les jours, parce que par exemple, tout à l'heure, avant d'arriver, je suis allé me promener autour de Bonnel, ça fait une balade de 4 à 5 km, je fais ça tous les jours pour pouvoir m'aérer, m'oxygéner.
Ouais.
Et je fais du bénévolat dans la MAP, l'association agricole en face. Donc j'ai besoin de...
Oui.
C'est pour ça que je reviens. Et donc, je disais ça par rapport à quoi ? Vous pouvez me rapprocher les bagots à ma place ou pas ? Ma dernière phrase, c'était avant la forêt. Hein?
Dites-moi ce qui vous vient par
là. Mais rien, là j'ai une absence, parce que ça m'arrive, ça par contre.
Vous avez des trous comme ça ?
Oui, j'ai des troubles comme ça. Ça m'arrive, je ne sais plus.
Depuis longtemps ?
Ah, depuis des années.
Ah oui ?
Oui, oui. Et quoi que je puisse être en train de dire, en train de faire la cuisine, être en train de me laver, ou. Je dois avoir un défaut électrique.
Vous avez fait tester pour ça ?
Non.
Ça ne vous inquiète pas ?
Si, mais. Et j'ai le flot de la ligue fait que je. Voilà, mais ouais, vous venez de voir en direct, ça m'arrive. Non pas de perdre les pédales, mais d'avoir une absence. Donc, par rapport à cette histoire de roi, ça y est, j'y reviens. L'Église orthodoxe, quand Michel Ier de Roumanie est mort, en 2017, devait être déclarée. Bon, Saint-Michel est... Et puis finalement, la colonisation pose problème, parce que tous les journaux roumains expliquent comment l'histoire est théorique. Pourquoi ? Parce que déjà, l'histoire du roi Pompidou, parce que Stéphanie Brun, ça fait une chose, elle expliquait quelque chose que je ne viens pas de moi, mais que le roi est mort. Que Margaret de Roumanie a peur qu'il a mort de son père, de son roi, pour avoir le temps de se désigner héritière, ce qu'elle a fait, concrètement. Mais la Roumanie ne l'a pas déclaré reine, ce qu'elle aurait dû être depuis le temps. Et j'ai, moi, des enregistrements téléphoniques de prêtres roumains qui me disent, mais oui, le roi est mort depuis plusieurs mois, mais c'est nous, on n'a pas le droit de parler. J'ai ça, puisque j'ai pris l'habitude à la maison d'enregistrer les appels qu'on reçoit, parce que sinon on nous explique qu'ils n'ont jamais eu lieu. Et cette femme donc parle de l'histoire d'un roi congelé, alors que cette info ne vient pas de moi, mais vient d'un couple roumain, en tout cas. Moi, j'ai eu l'info d'un couple roumain, dont Émile Adrien Maginici, qui est juste membre de la police de la politique roumaine, puisqu'il y en a toujours une, le SRI, et son épouse est journaliste d'investigation pour un grand journal roumain et une grande télé roumaine. Cette info vient d'eux, et elle serait vraie. Elle serait conditionnelle. Et cette femme parle de ça comme si c'était marrant, en fait. Mais c'est, vous ne savez pas de moi, cette info. Et c'est une info qui vient de Roumanie, de gens de Roumanie, et c'est un problème en Roumanie. C'est juste moi. Et en plus, c'est une info que je ne lui ai pas prouvée. Elle est allée la chercher au l'état de Roumanie, parce que quand on a été convoqué au début du mois de 16 juin, on a fourni certains éléments des écrits qu'on avait reçus, en particulier moi sur mon message. Moi, j'ai reçu ça, parce que vous en pensez. Elle avait déjà récupéré ces preuves-là, qui se sont avérées être de vraies preuves.
Qu'est-ce que c'est que la BTA?
La BTA, c'est Brigade Territoriale Autonome. Et après, c'est rendu. Donc, voilà. Moi, Stéphane et Maurice, pourquoi je ne peux pas porter plainte en diffamation contre elle? Parce que je vais faire rire le parquet si je porte plainte en diffamation, puisque je suis le bon qui vous invente des histoires impossibles. Mais oh, le parquet, ils sont payés à quoi faire. Puisqu'à force que je raconte que je suis le fils de quelqu'un, il faudrait peut-être m'expliquer que je suis le fils de quelqu'un d'autre. Parce que ça les concerne dans un sens, mais pas dans l'autre. Ça les concerne d'expliquer que je ne suis pas le fils de Michel Ier de Roumanie, soit, sur quelle preuve, ni génétique, ni historique, ni familiale, il n'y a rien.
En quoi ça ne justifie
pas? Parce que je suis censé être français, et qu'on ne peut pas me mettre en obligation de soins parce que je ne suis pas forcément toute ma tête, c'est le pas qui s'en est pas. Moi, je suis ici, pourquoi? Parce que l'année dernière, la procureure Ruscaria, durant l'audience, le 21 octobre 2019, on m'expliqua avant aussi que Jean-François Carati, monsieur Carati, voit les choses à sa manière. Eh bien, si je vois les choses à ma manière, que je n'ai pas la lumière à tous les étages, on appelle ça l'incapacité juridique, hein, on appelle ça personne vulnérable ou le coup sous tutelle ou sous curatelle, mais on ne joue pas avec moi. On ne m'explique pas d'un côté que je ne suis pas responsable de mes actes parce que je n'ai pas toute ma tête. Et de l'autre, on me fout des condamnations pour des choses étrangement construites. C'est ça qui ne va pas, moi. Soit je suis un criminel, soit je suis un type à aller sous curatelle. D'accord.
La justice et à cette juge en
particulier. Procureur.
Procureur, pardon.
D'ailleurs, je lui ai écrit, je lui ai dit, madame Dupuis, très poliment, disons, madame le procureur, aidez-moi à trouver la vérité, puisque vous
savez. Il y a quelque chose qui s'adresse à cette femme-là.
Oui, mais de façon pas agressive. C'est-à-dire que moi, c'est en tant que ces fonctions que j'interpelle cette dame, et je dis, mais puisque vous me dites que je ne suis pas le fils de telle personne, pourquoi pourriez-vous pas me dire à trouver le fils de qui je suis?
C'est moi qui me semblais par en haut.
Oui.
Bon! On se revoit mardi prochain à
10h30. Yes. forcément.
Je vous raccompagne.
C'est vrai. Ça m'arrive bien plusieurs fois par mois.
Oui.
Ça dure ce que ça dure. Même quand je conduis, parfois, je me dis qu'il y a ça. Ma femme est inquiète. Je me dis que je vais te retrouver à Bordeaux par mal à Lyon. Comment faire avec moi, avec ma nana, je vais faire par
Ah, tout ça.
C'est à trancher.
Absolument.
Je ne sais pas, mais...
Au revoir.